ça va y être, voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer, après l'exposé magistral de M. Marigny, qui a déjà couvert en fait une partie des questions que je comptais vous poser dès le démarrage. Donc, vous avez eu un avant-goût de cette table ronde sur le retour de l'Empire, mais je vous présente peut-être les autres intervenants, donc Deborah Harkness, auteur américain du livre « Perdu des sortilèges », Cassandra O'Donnell, qui nous a donné la série des aventures de Rebecca Keane, Alain Pozzuoli, spécialiste de Bram Stoker et de Dracula, Jean-Pierre Fontana, président fondateur du Grand Prix de l'Imaginaire, romancier, novelliste et spécialiste, entre autres choses, du cinéma fantastique, et M. Marigny, que vous connaissez déjà. Et comme nous sommes un petit peu en retard, mais que, en fait, M. Marigny a utilisé déjà le temps qu'il avait au démarrage pour faire la présentation sur l'historique des vampires, parce qu'on parle du retour des vampires, mais quelque part, vous l'avez réalisé, les vampires ont toujours été parmi nous, ils ne nous ont jamais quittés. Je vais peut-être passer d'abord la parole à Alain Pozzuoli, pour revenir sur 1897, qui est quand même une année fondamentale.
Merci, bonjour à tous. Effectivement, 1897, c'est une année charnière, puisque c'est l'année de la publication du roman de Bram Stoker, Dracula. Et on peut affirmer que Bram Stoker a vraiment, avec ce livre, posé les codes plus ou moins définitifs du genre, puisque c'est à partir du roman de Stoker que le vampire est identifié par certaines caractéristiques, par exemple qu'il craint le soleil, il craint les représentations religieuses, il ne veut pas se déplacer au-delà d'une étendue d'eau. Enfin, il y a beaucoup de codes comme ça qui datent vraiment du roman de Bram Stoker. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que avant Stoker, il y a eu un autre roman qui a déjà posé les codes, c'est le Carmilla de Sheridan Le Fanu. Puisque dans Carmilla, l'héroïne, qui est donc une vampire, craint déjà le soleil, elle craint déjà toutes les représentations religieuses, elle ne supporte pas la vue d'un crucifix. Donc ça, c'est déjà des petites choses qui ont été reprises par Bram Stoker. Par contre, il y a une chose qui est vraiment dans la panoplie, si je puis dire, du vampire, c'est le port de la cape. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, un lecteur m'a rendu compte que dans le roman de Stoker, il y a un seul passage où Dracula est affublé d'une cape. C'est au début du roman, lorsqu'il descend sous la forme d'un lézard la paroi verticale du château. Mais c'est le seul et unique moment où il est affublé de cet attribut. Mais par contre, le fait que le vampire est vraiment symbolisé par le port de la cape, c'est une trouvaille théâtrale. Parce que Dracula, on ne le sait pas forcément, enfin le roman Dracula, a gagné ses lettres de noblesse, non pas par le cinéma tout de suite, mais par le théâtre. Parce que, en résumant, Bram Stoker dirigeait un théâtre à Londres, qui s'appelait le Lyceum Théâtre, et au sein de la troupe, il y avait un jeune comédien qui s'appelait Milton Dean, et qui avait vraiment complètement adoré le livre, et qui, dès sa lecture, a eu l'envie de porter le roman au théâtre. Et il faudra attendre 1924, donc plus de 10 ans après la mort de Stoker, pour qu'il y parvienne. Et c'est lui qui a eu l'idée d'affubler le premier comédien qui a incarné Dracula d'une cape. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante pour nous, puisque c'est l'image qu'on a traditionnellement du vampire. Mais en fait, c'est pas véritablement Stoker qui a eu cette idée, c'est un homme de théâtre. Et effectivement, à partir de là, on est arrivé, la pièce d'Hamilton Dean a été reprise aux États-Unis à Broadway, où elle a eu un succès phénoménal. Elle était déjà incarnée, enfin Dracula était déjà incarné sur les planches par Bela Lugosi, et c'est grâce au succès de cette pièce que l'Universal, par la suite, a eu l'idée d'adapter la pièce au cinéma avec le même Bela Lugosi, et c'est de là qu'est parti le mythe de Dracula et la Draculamania qu'on connaît aujourd'hui.
Effectivement, c'est Bela Lugosi d'abord qui va fixer l'image archétypale du vampire, ne correspondant d'ailleurs pas tellement à celle qu'il y a dans le roman lui-même. Là, c'est plutôt dans Nosferatu que l'image est plus ressemblante. Mais c'est là où, quelque part, d'abord avec Bela Lugosi et puis ensuite avec, je crois, Christopher Lee, que le vampire se transforme en cette image du bel homme ténébreux, prédateur de jolies femmes sans dépens. Jean-Pierre Fontana, tu peux peut-être nous en parler.
Oui, alors le mythe du vampire et l'expression du vampire au cinéma remonte, enfin, a connu, je dirais, d'abord de nombreuses heures de gloire avec la Universal, hein, donc interprété entre autres, bien sûr, par Bela Lugosi, mais après par d'autres acteurs, où d'ailleurs on sent déjà quelques perversions dans les années 40, puisqu'on va faire intervenir et rencontrer les monstres de la Universal, c'est-à-dire Dracula va se retrouver avec un loup-garou, avec la momie, etc. etc. Bon. Mais il est vrai que c'est surtout la Hammer Film qui va, je dirais, immortaliser, et grâce à Christopher Lee, l'image du vampire, en fixant, surtout dans les premiers films, les règles essentielles qu'on connaît, c'est-à-dire le vampire, s'il se déplace, il a son cercueil avec la terre natale, enfin la terre dans laquelle il a été enterré. Le vampire craint les croix, l'eau bénite, enfin un certain nombre de règles. Il y aura quand même une perversion vers les derniers films de la Hammer avec Christopher Lee, où par exemple, on s'aperçoit que l'aubépine est également une façon, puisque ça représente la couronne du Christ, enfin, disons la couronne. Donc l'aubépine également va être un élément de s'attaquer aux vampires. Mais, et j'en viens un petit peu peut-être à ce qui va être le sujet par la suite, et qui a maintenant pris dans la littérature moderne, c'est que dans les années 50, là, la perversion, elle ne vient pas de la littérature, elle vient du cinéma. Je prends un exemple, dans le film, par exemple, dans Les Griffes du Vampire, qui est un western d'ailleurs, hein, le vampire, par exemple, se promène en plein jour. Bon, il porte des lunettes de soleil parce que quand même, le soleil le blesse. Hein. Et alors, pour être tué, c'est là où la perversion va loin et où on sent le mélange des mythes, c'est que si... Alors d'ailleurs, c'est un très mauvais tireur, donc les autres cow-boys, quand il y a des duels, tirent avant lui, mais les balles ne lui font rien, donc il gagne les duels. Simplement, il y a un prêtre qui va avoir l'idée de prendre une croix en argent, d'en faire une balle en argent, et cette balle en argent, là on rejoint le mythe du loup-garou, la balle en argent va permettre de tuer le vampire. Voilà, bon, je ne veux pas m'avancer plus parce que je pense que l'heure tourne, mais je vais quand même surtout laisser la place aux personnes qui vous intéressent peut-être davantage. Mais voilà comment petit à petit le cinéma a entraîné le fait que le vampire, petit à petit, ne se déplace plus forcément de nuit. En plus, je veux dire, il va souvent... parce que dans les films de la Hammer, à part peut-être un, on a toujours le vampire humain. Par contre, on a une première apparition dans un des films de la Hammer qui est un petit peu en marge, où le vampire, à un moment, va se transformer en chauve-souris, mais c'est encore très rare. On le trouvera dans certains films mexicains, par exemple, dans Les Proies du Vampire, où on le voit se transformer en chauve-souris. Mais je dirais que ça n'est que dans les films successifs, après la Hammer, que là, le mythe du vampire va vraiment complètement se transformer. Voilà.
Alors, effectivement, là, nous en arrivons maintenant à ce qui est, quelque part, le cœur du sujet, c'est-à-dire le retour, là, en force des vampires, qui, d'une part, restent à l'écran, mais reviennent aussi, alors là, de façon très importante, dans la littérature. Et cela par l'intermédiaire d'auteurs qui sont tous des auteurs féminins. Je pense bien entendu à Anne Rice, hein, tout le monde connaît Anne Rice, mais aussi à Laurel K. Hamilton et à l'innombrable kyriel d'auteurs qui ont fait les scénarios de Buffy. Donc là, soudainement, ça bascule. Et je pense qu'il serait intéressant là que nos deux auteurs féminins qui toutes les deux utilisent le thème du vampire et chacune sous un aspect différent, nous parlent peut-être de ce qui d'abord leur a donné envie à elles aussi de parler, de traiter de vampires plutôt que d'autres créatures, après tout, et d'autre part, qu'elles nous disent pourquoi donc elles ont choisi le vampire.
C'est bon.
Bonjour.
I wanted to talk about vampires because I think they are monsters to think with. I think vampires give us a way to think through both what we fear and also what we desire. And that tension is very interesting to me. And it's also, for me, there were parts of the vampire legend, as you have heard spoken about today, that never made sense to me, that they would burn at the touch of sunlight, that all of these sort of myths of the vampire. And so I wanted to play with that legend just a little bit and see if I could make it seem a little more scientifically possible.
Donc tout d'abord, j'ai voulu parler des vampires parce que ce sont des monstres avec lesquels on peut réfléchir. On peut réfléchir à ce qui nous fait peur et réfléchir à ce que l'on désire. Et pour moi, cette tension justement entre la peur et le désir est très intéressante. D'autre part, on a déjà parlé effectivement de l'aspect légendaire du vampire. Et pour moi, certains aspects n'avaient aucun sens. Par exemple, qu'il se mette à brûler si le soleil lui tombait dessus, ça ne me paraissait pas très logique. Et d'autres aspects du mythe également. Et j'ai voulu jouer avec cette légende et voir si je ne pouvais pas la rendre quelque peu plus possible scientifiquement.
Pour moi, il y avait les vampires, mais pas seulement. C'était tout le monde des créatures surnaturelles, c'est-à-dire les loups-garous, toutes sortes de mythes. Et les vampires m'ont intéressée pour un côté qui s'est dégagé déjà dans Stoker, mais qui était encore plus présent dans Anne Rice, c'était la sexualité, c'est-à-dire tous les tabous de la sexualité. C'est-à-dire que pour moi, les vampires, les crocs de vampires, etc., remplaçaient bien évidemment dans l'imaginaire le sexe masculin, avec tous ses interdits. Et le cadeau que pouvaient faire les vampires, c'était l'immortalité. Et c'était le plus beau cadeau, à mon avis, qu'on puisse faire à quelqu'un. Donc, pour moi, ça regroupait à la fois la peur de la mort, le désir et l'interdit. Donc, j'ai trouvé effectivement qu'il était très, très intéressant de travailler sur ce mythe particulier. Mais pas seulement, sur d'autres mythes et sur d'autres créatures. Et en fait, en voyant l'évolution qu'a pris l'urban fantasy ces dernières années, j'avais envie de créer quelque chose qui regroupe un peu tout ce qui m'avait intéressé dans la littérature de ces 20-30 dernières années. Donc, et en y mettant évidemment une patte très personnelle, une vision que j'avais moi, un ressenti. Et je me suis dit que c'était effectivement l'un des sujets qui me captivait le plus, qui m'attirait, qui me fascinait le plus, voilà, en littérature.
Jean-Luc.
Oui, parce que ce que je trouve frappant dans ce retour des vampires d'aujourd'hui, c'est qu'ils se sont modifiés, me semble-t-il, dans leur essence, de deux manières. C'est que d'une part, effectivement, comme on l'a dit, et j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que pourquoi se sont-ils modifiés comme cela? Les vampires, Déborah a commencé à parler un petit peu. Nous avons affaire à des vampires dans la littérature d'aujourd'hui, qui effectivement peuvent peut-être pas forcément aller bronzer sur une plage à Copacabana, mais qui peuvent au moins se balader au soleil, qui mangent, qui boivent, enfin, qui sont devenus quelque part, à part le fait qu'ils ont besoin de temps en temps de boire un peu de sang, et encore, même dans certains cas, c'est pas forcément du sang humain, hein, il y a des vampires qui peuvent boire du sang animal, et même dans la communauté du Sud, ils boivent du trouble, du sang artificiel, c'est comme de boire de la bière sans alcool. Mais bon, passons. Donc, il y a d'une part cette modification de la nature même des vampires, et d'autre part, il me semble que nous sommes passés d'une littérature vampirique avant, dans laquelle le point de vue était toujours donné. C'était un point de vue masculin et c'était en général celui du chasseur de vampires dont la mission était de protéger le sexe qui à l'époque était encore très faible, donc du vampire. Aujourd'hui, nous avons affaire à une littérature dans laquelle le vampire est toujours considéré comme un objet de désir, mais là c'est l'objet de désir vu par les femmes elles-mêmes qui acceptent parfaitement bien que le vampire soit un objet de désir. Donc j'aimerais qu'on discute, voir un petit peu, à votre avis, qu'est-ce qui a provoqué ces changements, si changements il y a eu.
Moi je pense que
Moi, je pense qu'il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est que la vision du vampire au XIXe siècle, ou plus exactement la vision que Bram Stoker a donnée du vampire au XIXe siècle, c'était la vision que la société victorienne avait de tous les déviants, de tous les personnages qui ne marchaient pas selon les codes infligés et imposés par la société. Et le vampire aujourd'hui, par contre, c'est plus l'autre, c'est nous-mêmes. Et du coup, on n'a forcément pas la même vision du personnage, à mon sens.
Oui, mais si je peux ajouter quelque chose, je parlais déjà, mais bon. Si je peux ajouter quelque chose, c'est, je pense que c'est véritablement Anne Rice qui est au départ de cette espèce de révolution culturelle dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a fait des vampires, des personnages très proches de nous, auxquels on pouvait totalement s'identifier, alors qu'il est difficile de s'identifier à Dracula, par exemple. Non, non. Ça fait pas, ouais. Il goûte des couleurs.
Pardon. N'importe. C'est bon. Non, non, quand même. Ok. Effectivement, c'est plus. Vous avez raison, c'est pas le Dracula, on est bien d'accord, originel, parce que lui ne fait pas particulièrement fantasmer, ce qui est vrai. C'est Anne Rice qui a fait cette modification, qui a rendu, effectivement, ces hommes plus proches de nous par des états d'âme, par des faiblesses, par tout ce qui pourrait paraître d'ailleurs humain à nos yeux, ce qui n'était pas du tout le cas dans Dracula, on est bien d'accord. Et pour nous, ça a été un peu. Ces faiblesses ont été aussi très attractive, un peu comme un homme idéal, c'est-à-dire, mais cet homme idéal à la beauté éternelle, à l'éternelle jeunesse, et qui rendait ça, enfin, qui devenait captivant, on est bien d'accord là-dessus. Je ne sais pas ce qui a motivé Déborah particulièrement, mais effectivement, le rapport à la mort, à notre propre mortalité, joue beaucoup, par exemple, dans la fascination que nous, on a en tant que femmes. Vous savez, c'est. On cherche toujours la perfection, mais en même temps, on veut qu'elle ne soit pas froide, qu'elle soit humaine. Et c'est cette perfection-là qu'ont les vampires, c'est-à-dire aussi bien physique, de puissance, la capacité aussi de protection. On a toujours cette chose, vous savez, comme dans les grottes anciennes, où on prend l'être le plus puissant. Le vampire est un homme aujourd'hui extrêmement puissant, donc évidemment on va se mettre sous la protection du vampire. Et on a toujours cet instinct-là, je veux dire, aujourd'hui les femmes lisent beaucoup de romans d'amour, que ce soit vous voyez des romans de Musso, de Lévy, aujourd'hui en France, etc. C'est toujours des romans d'amour. Donc il ne faut pas rêver, on est tout dans notre tête en crinoline encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher l'homme le plus puissant. Et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant qu'un vampire? Nous, pour une femme, donc évidemment qu'on fantasme. Évidemment qu'on va travailler sur ce fantasme, mais en même temps, on n'a pas envie de quelqu'un de froid, on a envie de quelqu'un qui ait cette humanité qu'on puisse comprendre, et entendre, et percevoir. Donc oui, ça nous captive, ça, on est bien d'accord.
I, as a historian, I of course am attracted to the vampires because they're so old. They've lived for such a long time, and so I want to know what they know that they've learned in the past that we may not remember in the present. And so for me, really what makes a vampire powerful and sexy is what he knows and who he has. So it's knowledge.
Yeah.
But that may be because I'm a professor.
Donc en tant que historienne, moi ce que j'aime chez les vampires, c'est qu'ils sont vieux. Et je voudrais savoir tout ce qu'ils savent et tout ce qu'on a pu oublier par le passé. Donc pour moi, leur puissance et le fait qu'ils soient sexy, ça vient vraiment de tout ce qu'ils peuvent savoir. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis un professeur.
Non, on a tous ce côté-là de Pygmalion. On recherche tout un Pygmalion. C'est exactement ça. Avec ça va. C'est pas seulement la chasse, la puissance, la force. C'est aussi ça, c'est-à-dire le savoir. Donc on a exactement, c'est exactement la même démarche, celle dont je parlais là un petit peu avant. C'est ça. On cherche tout un Pygmalion, quelqu'un qui va nous enseigner.
Yes.
Évidemment, quand on est historienne et qu'on a un témoin sur des siècles, on n'a pas envie de le lâcher, mais c'est pareil pour toutes les femmes, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît mieux, qui est puissant, qui est fort, on sera forcément attiré, et le vampire regroupe tout ça.
Yeah, and I also think that in many of the stories now, the women tend to fall, we see women who are very reluctant to fall in love with a vampire, and then when they fall, their whole life is different and changed. And so I also wanted to do something differently, where I wanted her to fall in love quite quickly and then to think, oh no, what have I done? And have, because really there's a lot of books in the world about falling in love, but there are very few about staying in love. And that's what I think would be really challenging if you were with a vampire, given what he eats, what he knows, that, you know, for my vampire, feminism happened in the last sort of 10 minutes of his life, and he's not very good at it yet.
Dans beaucoup d'histoires, on voit des femmes qui n'ont pas envie, qui essayent d'éviter de tomber amoureuses du vampire. Et quand elles finissent par tomber amoureuses, ben là, ça change complètement leur vie. Moi, ce que je voulais, c'était qu'elles tombent amoureuses assez vite et que finalement, elles se disent « Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et parce qu'on lit beaucoup d'histoires d'amour, mais on ne parle pas du fait de rester amoureux. Et c'est un vrai défi quand on sort avec un vampire, étant donné ce qu'il est et ce qu'il sait. Par exemple, mon vampire, il a connu le féminisme, mais en gros, ça représente les 10 dernières minutes de sa vie. Donc, il n'est pas encore très doué pour ça.
Moi, j'ai opté pour un autre, pour autre chose, c'est-à-dire que Rebecca, sur le coup, c'est pas qu'elle voulait pas tomber amoureuse, mais elle s'en moque. C'est quelqu'un d'aussi froid, peut-être, et insensible. Donc, elle est très, très dure. C'est un personnage vraiment dur. C'est pas quelqu'un, une héroïne qui va apprendre petit à petit ses pouvoirs, qui va se rendre compte ou qui va les avoir de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'elle a en elle. Et effectivement, j'ai essayé de trouver, moi, une héroïne qui ne soit pas très très loin en matière de puissance et de force de mon vampire, qui lui en plus est très âgé. Donc effectivement, il fallait quelqu'un qui soit à la hauteur. Mm-hmm. Et donc cette héroïne, je l'ai voulu au contraire, j'ai fait un travail complètement sens inverse de ce qui est fait habituellement, c'est-à-dire qu'elle a pas été, elle s'est pas endurcie avec le temps. Elle était très très dure au départ, et c'est ce vampire qui va lui apporter un brin d'humanité, mm-hmm. étrangement.
Bon, j'ai une question à poser en particulier à Déborah. Bon, je suis. J'ai une question à vous poser. Voilà, je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc de l'Auvergne. Et quand on lit les romans de Dan Rice, on a Lestat le vampire qui est originaire d'Auvergne. Si j'ai bien compris, dans votre roman, dont j'ai lu le résumé, on parle de Gerbert d'Aurillac, encore un Auvergnat, alors qu'il n'y a aucun vampire dans l'histoire de l'Auvergne. On a par contre d'un procès de loup-garou, par exemple, à Rion, mais les vampires, ils viennent d'Europe centrale. Alors, pour quelle raison cet intérêt pour l'Auvergne?
The Auvergne is the new Transylvania. I chose the Auvergne because I knew I wanted my vampire to be quite old, and no vampire made in the last 50 years for this historian. And so much European history, specifically, is rooted in the Auvergne and in that part of France. So it's where the First Crusade left from. It is a place where Christianity took root. It was in the French Wars of Religion. So it was the perfect place for me. I will tell you honestly, I had forgotten Lestat was from the Auvergne. And then someone said to me, oh, very clever. Lestat is from the Auvergne too. And I thought, he is? Yes, he is. And so it must have been in my mind, maybe it was in my mind somewhere, but honestly, consciously, I chose it for historical reasons that had to do with how important the Auvergne has been in European history. So says the historian.
Alors, effectivement, alors moi, s'il vient d'Auvergne, c'est parce que c'est un vampire très très vieux. En tant qu'historienne, je ne voulais pas un vampire qui ne datait que de 50 ans. Et l'Auvergne est très importante dans l'histoire de l'Europe. C'est de là qu'est partie la première croisade, c'est la racine de la christianité. Et pour être honnête, quand j'ai décidé de ça, j'avais complètement oublié que Lestat venait d'Auvergne également. Et un jour, quelqu'un m'a dit, bien joué, effectivement, de l'avoir fait venir d'Auvergne. Ah bon, il était d'Auvergne. Ah ben, j'avais oublié. Donc peut-être que c'était pas conscient. Enfin, j'avais peut-être dans un coin de ma tête et je l'ai peut-être fait exprès sans le savoir. Mais pour moi, d'Auvergne, c'est vraiment le point de vue historique qui m'intéressait.
J'ajouterais qu'il y a un écrivain américain que vous connaissez sans doute, un disciple de Lovecraft, Clark Ashton Smith, qui a écrit des histoires de vampires dans une province qu'il appelle l'Avroigne. Et l'Avroigne, c'est l'Auvergne, bien entendu.
Et très curieusement, d'ailleurs, j'ai constaté que dans la plupart des séries de bitlit actuelles, les vampires sont souvent d'origine française. C'est très curieux. Bah, Rebecca Keane est quand même d'origine française, hein, quelque part. Mathieu Clermont, il est auvergnien, on l'a dit, d'origine. Et dans, bon, on a parlé de l'Estin, etc. Mais dans un grand nombre d'autres séries contemporaines, le vampire est toujours d'origine française et souvent habite dans le sud des États-Unis. Alors, est-ce que c'est parce que inconsciemment on projette toujours cette image de, entre guillemets, sophistication à la française qui existe toujours aux États-Unis?
It exists now in America. But sophisticated. Somebody, when I first came to France, they said, why does Matthew have to be French? And I said, the wine, the knowledge, good looking, sophisticated. He's French.
Effectivement, l'aspect sophistiqué, on le pense encore hein, aux États-Unis. Et la première fois que je suis venue en France, on m'a demandé mais pourquoi Matthew est-il français? Je dis bah le vin, les connaissances, il est beau, il est sophistiqué, bah il est forcément français.
Rebecca, pour moi, c'était un clin d'œil puisque j'avais situé mon action aux États-Unis. Effectivement, je voulais faire un clin d'œil à la France et vraiment rendre mon héroïne. Enfin, pour moi, elle devait être française, c'était obligatoire. Donc, il était hors de question qu'elle ait une autre origine. Donc, effectivement, Rebecca est française. Mais au demeurant, les vampires ont débarqué au Canada avec Monsieur de Champlain. Et c'est là où j'ai fait, en fin de compte, la petite relation. Mais c'était une évidence que et les vampires et mon héroïne, qui appartenait à une vieille, très très vieille confrérie de sorcières et très puissante, étaient forcément d'Europe, obligatoirement. Les États-Unis étaient un pays beaucoup trop jeune. Ou alors il aurait fallu situer ça, effectivement, en Amérique du Sud, chez les côté Maya, Inca, etc., et donner une autre dimension. Mais pour le coup, c'était forcément un vieux pays. Et la France, obligatoirement, j'ai un petit côté chauvin quand même.
Alors, statistiquement, dans la littérature américaine, on peut dire que 80% des vampires sévissent à la Nouvelle-Orléans. Or, la Nouvelle-Orléans, c'est la ville la plus française des États-Unis. Hein, donc.
Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai mise dans le Vermont. Parce que j'ai un esprit de contradiction. Je me suis dit pas très loin de Montréal, une heure. Mais effectivement, c'est dans le Vermont.
Monsieur Marigny a tout à fait raison. Moi aussi, j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui habitent d'une part à la Nouvelle-Orléans ou en Louisiane d'une manière générale. Et un certain nombre d'autres, de toute façon, habitent toujours dans les territoires de l'ancienne Confédération. Il y en a beaucoup dans les Carolines et en Géorgie. Le sud a été l'Empire. Peut-être parce que c'est là aussi des cités de vieilles civilisations aux États-Unis aujourd'hui encore. Alors, ce que j'aimerais
I think New Orleans in particular, because the slaves who came into New Orleans came from a different place than many of the others, and so they brought. There's a very strong African tradition of magic meeting up with. So voodoo, vampires, New Orleans, all go together.
Donc pour la Nouvelle-Orléans, effectivement, là-bas, les esclaves venaient d'un endroit différent par rapport au reste des États-Unis. Il y avait beaucoup d'Africains, et donc les Africains, la tradition de magie, les voodoos, tout ça, bah voilà, les vampires.
Et puis la Nouvelle-Orléans est aussi la ville de la débauche aux États-Unis, avec Mardi Gras, etc. Je voudrais peut-être revenir un tout petit peu en arrière, parce que sur quelque chose que vous avez dit toutes les deux, et qui était très intéressant, c'est que dans les deux cas de vos héroïnes, que ce soit Diana Bishop ou Rebecca Keane, ce sont des femmes qui sont fortes, qui sont les égales des vampires, mais qui, en même temps, quelque part, ont refusé chacune leur nature au début de l'histoire.
Oh. Je pense pas que... Non, Rebecca, elle refuse pas sa nature de sorcière.
Elle refuse son éducation.
Non, elle n'a pas vraiment eu le choix puisqu'elle a été bannie et condamnée à mort par son propre clan. Mais en l'occurrence, effectivement, elle refuse pas ce qu'elle est. Elle a pas peur de ses pouvoirs, elle les assume complètement. Elle est même parfois antipathique tellement elle est arrogante et tellement elle est sûre d'elle. À côté de ça, effectivement, elle refuse une autre partie... Enfin, ce qu'elle refuse, c'est ce qu'elle ne connaît pas encore, c'est-à-dire ce qu'elle sait inconsciemment d'elle. Mais pour l'instant, c'est une question de ça. Ça a un rapport direct avec ses origines personnelles. Mais par contre, elle assume complètement sa nature, la puissance qu'elle a. Et après, bon, effectivement, elle tente d'échapper à la mort parce que c'est difficile de quand on est traqué. Mais en l'occurrence, elle n'a pas peur ni de tuer, et que ce soit des innocents ou pas, d'ailleurs des humains, elle n'a aucune pitié, elle n'a aucun remords. C'est une des rares héroïnes de Beatlib, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai lu, qui effectivement était profondément politiquement incorrecte. Il faut être clair, mais on est français. Hein.
For Diana... I wanted to think about the women that I see in my college who are 18 to 21 and who have many, many gifts, but who can sometimes be very reluctant to use them. And I think this is very common for women. I think that it sounds really good and easy, but that when actually it comes to it, that some women struggle, whether their power is the power to teach really well or to raise beautiful children or to run a huge company, but that for a lot of reasons she has found it quite hard. And I think that's an interesting thing to show how she can become more comfortable with that and to sort of grow into those powers.
Alors, en ce qui concerne Diana, moi, je voulais faire référence aux femmes que je vois là où j'enseigne, donc des jeunes femmes de 18 à 21 ans, qui ont souvent des dons, mais qui ont beaucoup de mal à s'en servir. Je crois que c'est très commun chez les femmes. Ça peut paraître facile, mais finalement, elles luttent quand elles ont un pouvoir, qu'il s'agisse d'enseigner, d'élever des enfants ou encore de gérer une entreprise. Donc ça vient de différentes raisons. Mais pour moi, c'était intéressant de montrer justement cette héroïne qui va devenir de plus en plus à l'aise avec ses pouvoirs et comment elle va grandir avec ses pouvoirs.
And I just say, and a lot of the women that sometimes I see in fiction are either having complete breakdowns or they train with paramilitary groups and run a corporation and are beautiful and everything seems wonderful. And I know no women like that. So again, I was trying, just as I tried to make the vampire more believable, I also wanted to make the witch seem a little more believable.
Alors, en ce qui concerne beaucoup de personnages féminins sur lesquels je lis, alors soit elles sont sur le point de devenir folles, enfin elles ont vraiment beaucoup beaucoup de mal, soit elles sont super belles, elles s'entraînent avec un groupe paramilitaire, tout va très très bien, et moi je connais pas des femmes comme ça. Du coup, de même que j'ai voulu rendre le vampire un peu plus crédible, j'ai voulu rendre la sorcière un peu plus crédible également.
Moi je voulais pas la rendre humaine dès le départ, c'est-à-dire que c'était pas une humaine, mon personnage n'a jamais été humain au départ, dès le début, donc effectivement les règles sont différentes, et on est d'accord, on connaît pas d'humaine comme ça du tout. Mais pour le coup, Rebecca n'étant absolument pas humaine, c'est l'humanité qu'elle va apprendre, donc effectivement c'est la faiblesse, c'est apprendre à faire des compromis, la compréhension d'un monde nouveau. Donc là on est dans c'est à l'inverse total de votre personnage, par exemple. Moi, je suis passée dans un truc où effectivement, c'est pas une humaine. Mon héroïne n'est pas humaine, tout simplement. Donc, elle est petit à petit, effectivement, elle fait cet apprentissage-là et on est parti sur quelque chose de complètement différent. Mais vous avez raison, il faut me rendre un petit peu les choses crédibles. Et dès le départ, si elle avait été humaine, ça aurait été absolument pas crédible.
But the women in Stoker are also, you know, it's hard when you have a vampire. It's hard when you have a vampire and they always take center stage. It's very hard for them not to upstage the woman. It happens in Stoker, I think. It happens in most of the, it happens in Anne Rice as well, where the women are, you know, harder. Right.
Oui, donc c'est assez difficile aussi pour les femmes dans les romans, même pour Stoker. Bah finalement, comme le vampire est au centre, les femmes sont un peu reléguées sur les côtés, quoi.
Ce que j'ai remarqué dans vos deux romans, c'est que le fait d'être une sorcière, aussi bien chez Cassandra que chez Deborah, le fait d'être une sorcière, c'est inné, c'est une espèce de... c'est inscrit dans les gènes, en quelque sorte. Hein. C'est pas un apprentissage.
Quoi. Non.
Très curieux. On a l'impression que les sorcières sont une espèce en dehors de l'humanité.
Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est inné. Voilà. Bah, je sais pas. C'est par exemple pour Rebecca, personnellement, c'est aussi inné que si on est un chien. Voilà. C'est une sorcière. Et elle n'appartient pas à l'espèce humaine dès le départ. Donc, ce sont les bases effectivement qui ont été posées. Elle ne réfléchit pas comme une humaine, elle n'aime pas comme une humaine, elle est complètement différente à tout niveau. Donc effectivement, c'est là où mais je pense que c'est la même chose pour Deborah, on part de ce postulat-là, et effectivement il n'y a pas d'apprentissage puisque c'est pas la même nature, tout simplement dès le départ. Donc effectivement, après c'est à nous d'expliquer correctement la différence, le monde, d'expliquer le mode de fonctionnement de nos personnages, la façon de sentir, d'aimer, de ressentir. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, on est parti. Enfin, moi, je suis partie de ce postulat. Mais
mm-hmm. Yeah, I because the vampire is reborn a vampire, I wanted the witch to be born a witch because again, so that there was a similarity in the way that they couldn't avoid who they were anymore.
Oui, donc de la même façon que le vampire venait, je voulais que la sorcière naisse sorcière, que ce soit des conditions qui ne puissent pas éviter.
Oui, je vais ramener un petit peu au cinéma, mais d'abord, actuellement, on a des vampires qui sont effectivement très beaux, alors que à l'origine, et quand on voit par exemple le Nosferatu de Murnau, il ressemble presque plutôt à un rat, mais petit à petit, le vampire va s'embellir, et c'est vrai que Christopher Lee va donner, je dirais, presque l'image définitive du beau vampire. D'autre part, on a maintenant l'intervention des sorcières. Quand on regarde le film de Mario Bava, Le Masque du Démon, au départ c'est une sorcière, et après elle va devenir une vampire. Bon, et dernière remarque, je dirais, jusqu'à une époque relativement récente, les histoires de vampires se passent, je dirais, dans le monde, alors que depuis, presque Buffy et quelques autres romans de style, maintenant, les histoires de vampires se déroulent toujours dans les collèges, les universités, etc., ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, c'est...
Ah bon, alors, moi, évidemment, ça se passe ni dans un collège, ni dans une université. Elle est professeure de français, mais là c'était bon, c'était parce que j'allais bien que lui trouver un job, si vous voulez, mais en l'occurrence, ça se passe pas vraiment ni dans un collège ni dans une université. C'est une femme déjà. On n'est pas chez une adolescente. C'est une mère, c'est une femme. Et même si effectivement elle est jeune, elle est très jeune, elle a 26 ans. Pour le coup, effectivement, elle n'a plus rien d'une étudiante. De plus, elle a un passé très lourd, un vécu assez long. Donc, moi, j'ai préféré éviter ça, justement, parce que je trouvais que on n'avait pas du tout de roman d'urban fantasy, pratiquement pas, où l'héroïne était femme et mère. Et j'avais énormément de mal à m'identifier, moi, en tant que lectrice, à une jeune fille de 18 ou 19 ans. Et je voulais une femme, une maman, qui ait les mêmes ennuis que moi, les mêmes tracas, surtout avec les adolescents. Et si vous voulez, j'avais envie que ça change un petit peu de ça. Bon, mais pour le coup, là aussi, c'est un apprentissage. Toute la vie de Rebecca est un apprentissage à l'humanité, un apprentissage à son poste et son rôle de mère. Enfin, je veux dire, effectivement, mais on n'est pas du tout dans le cadre du collège, du lycée et de la jeune fille qui va découvrir petit à petit. Elle va découvrir évidemment des choses sur elle, mais ça n'a rien à voir du tout, effectivement. Là, c'était, je voulais une femme, une vraie, comme héroïne, pour changer un petit peu. Mais en l'occurrence, j'aime beaucoup aussi quand ce sont des jeunes filles, mais j'ai plus de mal à m'identifier, moi, à mon âge, évidemment, forcément. Donc, voilà, puis en plus, j'avais envie qu'il y ait une héroïne qui change un petit peu de ça, ce processus-là. Mais par exemple, Déborah qui écrit en tant que professeur, c'est évident qu'elle va servir de son observation de ses élèves et de l'univers qu'elle connaît, et le retranscrire, et magnifiquement bien d'ailleurs. Mais effectivement, ce n'était pas le même postulat de départ qu'on a pris toutes les deux.
Yes, because I teach in a university, it all makes much more sense if I imagine that some of them are witches and some are demons and some are vampires. Because there are many strange people in the university. first. And second, you know, I do think sometimes we forget that learning things is a kind of magic. To learn, to find out, to know, that is magic. And that knowledge is power. So I love Buffy. I love Spike. I think that was a wonderful way of sort of encapsulating the horror of being a teenager. But again, I was wanting to show that different side of education that was really about magic and about knowledge. That's a lot. I'm sorry.
étant donné que j'enseigne à l'université, c'est plus facile de s'imaginer que certains des élèves sont des démons, des sorcières ou des vampires, parce qu'il y a même des gens bizarres, hein, là-bas. Et ensuite, je trouve qu'on oublie souvent qu'apprendre, c'est une forme de magie, et que la connaissance, c'est une puissance, un pouvoir. Personnellement, j'adore Buffy, j'adore Spike, mais justement, je voulais voir cet aspect affreux de l'adolescence et voir un autre aspect de l'éducation.
Très bien. L'heure a tourné très très vite. Je pense qu'on peut peut-être se permettre de prendre 5 minutes de retard sur le planning pour des questions, si vous en avez.
C'est une question pour Deborah Arnès. Elle a parlé par rapport à son empire qui serait âgée de 1500 ans parce qu'elle aimait le côté historique, parce qu'elle était historienne. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi Charles Darwin, pourquoi la chimie, enfin, pourquoi l'histoire des sciences, en fait.
I'm a historian of science. So, but also, the history of science tells us how we know what we think we know. And why we once believed in very different things. So for me, this started because I noticed that modern fiction was obsessed with the same topics as the people I study who lived in 1550. And so from that, but in 1550, the view of the world supported vampires, demons, witches. Scientifically, not so much anymore. So that's where the beginnings of the idea for the story came from. Ask her if that answers the question.
Comme je suis moi-même historienne des sciences, c'est pour ça que je me suis intéressée à ça. Et de plus, j'aime bien les sciences parce qu'elles nous expliquent comment on sait ce qu'on pense savoir et pourquoi avant on pensait différemment. J'ai déjà remarqué quand je lis des romans que les intérêts des gens aujourd'hui sont les mêmes que ceux des gens que j'étudie et qui vivaient en 1550, mais qui eux croyaient aux sorcières, aux vampires, aux démons. Et du coup, moi, c'est cet aspect-là qui m'a intéressé, faire le lien entre les deux. Est-ce que ça répond à la question ?
Oui. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Monsieur Amaury, lors de votre intervention que vous avez pu terminer au galop, j'ai entendu que vous aviez signalé qu'il y a une résurgence de ce thème du vampire, souvent dans des périodes de crise, des périodes difficiles. Donc, je serais très curieuse que vous puissiez développer un petit peu ça. Et puis, d'autre part, justement, bon, vous avez tous évoqué l'association du désir, de la sexualité, de la peur qui tourne autour de ces représentations. Or, le sida a fait son apparition, ce sont des personnages qui sucent le sang. Comment ça aussi, ça peut traverser l'imaginaire et aboutir à... Voilà, maintenant, quoi.
Alors, c'est très vaste, je vais essayer d'être très bref.
C'est difficile. Noir regard.
Je pense, par exemple, pour vous donner un exemple de période de crise, je pense que au cinéma de l'entre-deux-guerres, Dracula, interprété par Bela Lugosi, cristalliser toute la xénophobie d'une certaine partie du peuple américain qui était frappé de plein fouet par la crise et qui considérait, d'une part, il y avait d'une part la montée du nazisme et du bolchevisme en Europe, et puis il y avait le chômage qui faisait que tout étranger était soupçonné de voler, si vous voulez, les emplois. D'ailleurs, c'est un thème qu'on entend encore aujourd'hui, hélas, hein, qu'on a entendu dans notre campagne électorale, etc. Hein. Donc, je pense que ça a été la première crise. Ensuite, le vampire a connu un succès énorme pendant la guerre froide, hein, parce que, évidemment, on assimilait le vampire aux puissances de l'Est. Les vampires avaient tous des noms russes ou des noms tchèques ou des noms. Ensuite, il y a eu une nouvelle période extrêmement riche du vampire. Ça a été les années 70-80, où notre civilisation a connu une crise sans précédent. Hein. Je ne pense pas seulement à l'année 68, mais ça a été une remise en cause absolument de tout. Et c'est là que Akad Rice... Et puis maintenant, maintenant on est vraiment dans une période de crise énorme, hein, où la planète est en danger, où les valeurs traditionnelles ont complètement donné plus court, où on recherche des repères, et là, le vampire, une fois de plus, triomphe. Hein. Donc, ce qui sera intéressant, évidemment, c'est de voir comment ça s'articule. Bon, alors vous parliez du sida, je pense qu'effectivement, la peur de l'épidémie est devenue de plus en plus présente chez nos contemporains, et la meilleure preuve, c'est toute la série de films qu'on peut voir à l'heure actuelle sur le virus Ebola, sur toutes les formes d'épidémie, et le vampire, évidemment, se greffe là-dessus.
Je pense qu'il y a... Il y a un film qui fait allusion très directement à ça, c'est le Dracula de Coppola, où le vampire refuse de contaminer, c'est le mot, son amoureuse. Donc ça prouve que c'est vraiment très présent dans la société.
Je voudrais juste rajouter qu'il y a une association, surtout au cinéma, entre les films qui annoncent, je dirais, une fin du monde, des cataclysmes, etc., et le thème du vampire. Parce que si on prend, par exemple, le film de Polanski, à la fin du film, le vampire va contaminer le monde entier. Mm-hmm. Et souvent, dans les films de vampires, on a aussi cette espèce de contamination. Effectivement, on est dans une période de crise, on nous annonce la théorie des Mayas, etc. Enfin bon, et le vampire est également présent. D'un autre côté, ce qui nous sauve, c'est que le vampire est immortel, donc si nous devenons des vampires, nous passerons le cap de la fin du monde.
Je pense aussi directement à une trilogie qui a eu un certain succès, c'est la trilogie de Guillermo del Toro, où le vampirisme est absolument assimilé à une épidémie. Hein. On est malade. Quand on est mordu par un vampire, on devient malade.
Il y a un autre film, c'est Je suis une légende.
Ah ben, Je suis une légende, bien sûr. C'est une maladie aussi. C'est le bacillus vampiricus.
Alors, je terminerai là-dessus parce que nous sommes tous des mordus et des malades de cette littérature. Et malheureusement, le temps, lui, est impitoyable. Donc, je continue jusqu'à la fin à jouer mon rôle de rabat-joie. Je dois malheureusement annoncer la fin de cette table ronde. Il nous reste à remercier tous nos intervenants. Particulièrement brillant. Parce que, de toute façon, contrairement aux vampires, avec le